des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Nous sommes le 16 décembre, c'est la dernière émission de l'année avant notre thématique explorateur du 23. Et la proximité du réveillon autant que de l'exploration nous a donné envie d'écouter dans le temps des écrivains trois voix qui consacrent leur vie, ou du moins une grande partie de leur vie, à la littérature et à la transmission de la littérature par leurs romans, par leurs essais, par leurs cours aussi. Trois invités de choix et de poids qui vont nous parler du dernier livre qu'ils ont écrit, mais aussi de livres qu'ils n'ont pas écrits, mais qu'ils ont lus et même élus. Chacun d'eux a en effet choisi un auteur qui lui est cher et chacun d'eux va nous faire découvrir ou redécouvrir, et c'est un peu Noël aujourd'hui dans le temps des écrivains, cet auteur. Nous sommes avec la romancière Yakuta Alikavazovic et deux professeurs au Collège de France, le grand médiéviste et philologue Michel Zinc et le grand spécialiste de Montaigne, de Baudelaire, des antimodernes, Antoine Compagnon. Bonjour Antoine Compagnon.
Bonjour.
Spécialiste de Montaigne, de Baudelaire, mais aussi de chiffon maintenant, parce que vous publiez chez Gallimard Les Chiffonniers de Paris, sujet original et inattendu, sauf quand on n'aime pas la littérature, parce qu'il la hante, la littérature, ces chiffonniers présents chez Hugo, chez Baudelaire, chez Théophile Gautier. Il serait même, à vous lire Antoine Compagnon, à l'origine de tout livre. Vous citez Louis-Sébastien Mercier dans son tableau de Paris en 1781, le voyez-vous, cet homme qui, à l'aide de son croc, ramasse ce qu'il trouve dans la fange et le jette dans sa hotte. Ce vil chiffon est la matière première qui deviendra l'ornement de nos bibliothèques, le trésor précieux de l'esprit humain. Le chiffonnier précède Montesquieu, Buffon et Rousseau. À ce point, Antoine Compagnon, il est à l'origine de tout.
Le chiffonnier est à mes yeux, maintenant, après avoir écrit ce livre, l'homme le plus important du XIXe siècle. Il n'y aurait pas de XIXe siècle sans le chiffonnier de Paris. C'est lui qui ramasse les chiffons dans les tas d'ordures, au coin des bornes, dans les rues. Et avec ces chiffons, on fait du papier. Et il y a de plus en plus besoin de papier au XIXe siècle parce que l'école se développe, parce que les gens lisent, s'intoxiquent de lecture, comme Madame Bovary, et qu'il y a une pénurie de papier tant qu'on ne le fait pas avec le bois. Donc le chiffonnier est là, au centre de l'économie, au centre de la société.
Et de la littérature.
Et de la littérature, il est toujours comparé au poète, parce que comme le poète, c'est un flâneur, il est le flâneur populaire, il rôde dans la ville, la nuit, c'est un noctambule.
Avec sa lanterne.
Avec sa lanterne, toujours représenté avec la hotte, le crochet et la lanterne. Il fréquente les poètes, comme Baudelaire, comme Gautier, comme Nerval, comme tous, dans les cabarets, des halles pendant la nuit et dans les guinguettes de la barrière le jour lorsqu'ils auront un peu d'argent. Et bon, l'ami de Baudelaire, Privat d'Anglemont, a beaucoup écrit sur ce Paris populaire et notamment sur le chiffonnier qui est sans doute le plus important parce qu'il date du Moyen-Âge. Il y a toujours eu des chiffonniers ramassant des chiffons. Mais la plupart de ces petits métiers parisiens tombent en désuétude au XIXe siècle. Et le chiffonnier, au contraire, c'est son moment de gloire. Il est essentiel. Il y a vraiment un écosystème du chiffonnage. Et puis, il y a un système symbolique, parce qu'il y a beaucoup de légendes, de mythes qui sont associés à ce personnage.
Le chiffonnier, donc on en parlera. Vous avez choisi de nous parler de quel auteur, Antoine Compagnon, nous faire partager un auteur que vous aimez?
Eh bien, justement, j'ai choisi de vous parler de Victor Hugo, oui. Parce que pour moi, Victor Hugo est vraiment le grand chiffonnier du 19e. Siècle.
Oui, c'est comme ça que vous l'appelez, le grand chiffonnier de la littérature.
Et oui, c'est lui qui fait vraiment la théorie du chiffon dans Les Misérables et ailleurs. Et c'est lui qui exploite au maximum cette mythologie du chiffonnier, aussi bien dans la poésie que dans le roman, partout.
Et dans la politique aussi. La guillotine est comparée d'ailleurs au chiffonnier.
C'est le jugement dernier. Voilà. Le chiffonnier est la personnification du jugement dernier, du jugement de l'histoire.
Très bien. Bonjour Michel Zinc.
Bonjour.
Médiéviste illustre, membre de l'Institut, professeur honoré au Collège de France. Vous venez de publier chez Albin Michel L'humiliation, le Moyen-Âge et nous. Et vous republiez en poche chez Tempus Les Troubadours. C'est un essai, une promenade à travers les auteurs des plus anciennes chansons d'amour, où tout n'est que tremblement du désir, ferveur, frustration. Alors, en préparant cette émission, je lisais un extrait de ces troubadours, et je lisais « Hélas !» Alors c'est la traduction, hein, je ne me permettrai pas de parler en languedoc.
La traduction vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est la mienne.
Mais c'est la vôtre. Hélas, je croyais tant en savoir sur l'amour, et j'en sais si peu, car je ne peux me tenir d'aimer celle dont je n'obtiendrai jamais rien. C'est tout à fait contemporain.
Oui, ce qui est contemporain surtout, enfin contemporain, enfin, je ne veux pas vous démentir, mon cher, mais c'est un peu bête de dire c'est contemporain.
Cette morsure
ils
d'amour.
Sont, ils sont ce qu'ils sont. Mais la morsure d'amour, oui, nous vivons encore d'une certaine façon, à moins que les mœurs évoluent si vite que tout se délite sous nos yeux.
Ça se fait par réseaux sociaux, mais c'est...
Nous vivons de cette idée qu'il y a une tension dans l'amour et que c'est un sentiment en lui-même contradictoire, qu'il est toujours exaltant et toujours douloureux. On peut être très 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 malheureux en amour, mais... On est exalté. Le diagnostic sur l'amour, à l'époque, c'est la seule maladie dont on ne souhaite pas guérir. Voilà. Et en même temps, on peut être très heureux en amour, mais il y a toujours l'ombre d'une inquiétude. Et ces poètes, ces premiers poètes d'amour dans une des langues modernes de l'Europe, en languedoc, jouent de cette contradiction, du désir qui désire être assouvi, mais redoute de l'être, parce qu'il mourra comme désir à ce moment-là, et leur poésie, souvent difficile, parce qu'elle veut rendre dans les mots ses tensions et ses contradictions, en joue sans cesse, avec, planant au-dessus, à cette époque, le regard de Dieu et le souci de placer l'amour-passion, l'éros, parce que ce n'est pas une poésie chaste, au milieu de toutes les catégories d'amour de ce monde et de cette religion qui est une religion d'amour. Alors, vous placez ça au regard de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, de la charité, etc. Et ils se débattent dans ce nœud de contradiction et ça fait des poèmes magnifiques.
Est-ce qu'il y avait des chiffonniers parmi ces troubadours, hein? On en parlait puisque Antoine Compagnon nous disait la figure remonte au Moyen-Âge. Vous avez rencontré, Michel Zinc, troubadours
alors,
chiffonniers.
Des chiffonniers, vraiment, non, parce qu'il n'y a pas de papier. Ouais. On écrit sur parchemin ou sur tablette de cire. Donc, il n'y a pas de vrais chiffonniers. En revanche, ces troubadours appartiennent à toutes les catégories sociales. Il y a de très grands princes, il y a des seigneurs, il y a des marchands, il y a des clercs, il y a des moines, il y a des jongleurs et il y a de pauvres hères. Donc, l'équivalent social, au moins du chiffonnier, pourrait se rencontrer.
Le pauvre hère. Et vous nous parlerez de quel pauvre hère tout à l'heure.
Alors, on ne parle pas d'un pauvre hère. D'ailleurs, vous êtes d'une hypocrisie noire parce que c'est vous qui me l'avez pratiquement imposé.
Je vais parler
sans aucune originalité de Chrétien de Troyes, mais il y a tout de même une raison. Parce que, d'une part, c'est un très grand romancier, pas seulement pour le XIIe siècle, c'est un des plus grands romanciers français, c'est un des plus grands poètes, ce sont des romans en vers, et il a écrit aussi des chansons, et c'est celui qui a su mettre en narration cette fine amour, cet amour courtois, en faire le grand sujet du roman, en même temps qu'il faisait de la matière de Bretagne, la matière arthurienne, qu'on découvrait, le grand sujet romanesque. Et aussi, au milieu de ces amours brûlantes, c'est en même temps un moraliste à sa façon, qui cherche, non pas la morale, ça fait toujours ennuyeux si on dit amoral, mais qui cherche une voie juste de l'amour et la façon dont on peut vivre la passion d'une façon qui la rende digne de soi-même, digne de celle qu'on aime et digne de Dieu.
Et vous auriez pu nous parler de Maurice Leblanc et d'Arsène Lupin, car vous êtes un grand connaisseur.
Ah oui, mais enfin... En amateur.
Voilà, en amateur.
Et je suis si vieux que j'aurais même pu parler des chiffonniers, car moi, dans mon enfance, j'ai entendu le cri du chiffonnier à Issy-les-Moulineaux. Je suis né, je l'avoue, en 1945. J'ai quitté Issy-les-Moulineaux en 1949, à 4 ans. Donc c'est antérieur
vous
à
vous souvenez de 5 à 4 ans.
Oui. Marchand d'habits, chiffon. Et j'entendais ça dans la rue.
Vous avez...
Près de la porte de Versailles, donc sur les anciennes fortifs, d'une certaine
Exactement,
façon.
Les fortifications. Bonjour Yakuta Alikavazovic.
Bonjour.
Ancienne élève de l'ENS cachant agrégé d'anglais, vous êtes traductrice notamment de Ben Lerner ou de David Foster Wallace, dont vous traduisez en ce moment les
articles inédits, ouais. Il a écrit beaucoup d'articles pour la presse américaine à la fin du XXe siècle, au tout début du XXIe, qui n'ont pas encore été traduits, que je suis occupée à traduire, à polir même, là, et qui paraîtront prochainement aux éditions de l'Olivier.
On a, c'est une sorte de chrétien de droit de la postmodernité.
C'est le troubadour postmoderne.
C'est ça. Alors, votre premier roman, Corps volatile, avait remporté le prix Goncourt du premier roman en 2007. Et votre quatrième roman était très remarqué en cette rentrée littéraire. Il a d'ailleurs figuré sur la liste du Médicis du Femina. Il s'intitule L'avancée de la nuit, publié aux éditions de l'Olivier. On y rencontre une héroïne rousse flamboyante, une étudiante qui vit à l'hôtel, qui fascine tous ceux qui s'en approchent, notamment le jeune Paul, gardien de cet hôtel, avec lequel elle va nouer une passion, peut-être une sorte de fin à mort, aussi absolu que fiévreux. Il en paiera le prix, car ce récit d'un amour fou est aussi celui d'une tragédie annoncée qui nous mène du côté de Sarajevo, de la guerre civile qui a ensanglanté l'Europe. « Mal finir », écrivez-vous, « est une constante de tous ceux dont la compagnie est un tant soit peu digne d'intérêt ». Vous dites ça d'Amélia, qu'il est inévitable d'aimer, mais impossible de sauver. À quelles grandes héroïnes amoureuses doit-elle cette Amélia qui semble taillée dans un marbre tout tragique ?
Oh oui, oui, je pense que le tragique nous manque au XXIe siècle parce qu'il y a une noblesse de la tragédie. Et la tragédie nous grandit, elle condamne les héros et héroïnes, mais elle réveille peut-être le meilleur en nous. Toutes les grandes héroïnes funestes et romantiques, la première. Oui, c'est une histoire d'amour. L'avancée de la nuit, c'est une histoire d'amour. Alors, je pensais avoir une idée modeste et simple qui était d'écrire celle d'une histoire d'amour, de la rencontre entre un jeune homme et une jeune fille. Et évidemment, ça s'est compliqué assez rapidement puisque écrire une histoire d'amour, c'est aussi écrire l'histoire, sans doute, du monde dans lequel cet amour arrive à se vivre ou pas. Et il se trouve que oui, il y a des flashbacks au XXe siècle en ex-Yougoslavie, mais c'est un roman qui est ancré dans l'instant contemporain, dans les années que nous vivons et celles que nous vivrons même demain ou même demain matin.
Légère anticipation, en effet.
Très légère anticipation, très réjouissante pour moi à concevoir. Et alors, vous disiez tout à l'heure, oui, le regard de Dieu plane sur eux.
Oui, c'est Michel Zinc qui disait
Michel
ça.
C'est Michel Zinc qui disait cela. Ce jeune couple qui finit par grandir, ce pauvre R devient un homme accompli et il n'a de cesse d'attendre son Amélia. Alors ce n'est pas le regard de Dieu malheureusement ou heureusement qui plane sur eux, c'est plutôt le regard des caméras de surveillance et le regard des drones.
Vous allez nous parler de qui tout à l'heure, un auteur que vous aimez ?
Oui, alors j'ai décidé en cette période de fête de parler d'une auteure américaine qui s'appelle Shirley Jackson. Alors on la catégorise dans le genre fantastique, voire dans l'horreur, c'est plus évidemment subtil que ça.
Quelle époque ?
20e siècle, milieu du 20e siècle. C'est un peu cas de possession chez les yéyés en fait. Je vous parlerai de ses romans, c'est une romancière, une nouvelliste. C'est une femme qui disait comme ça qu'elle n'aimait pas beaucoup parler d'elle, qu'on lui demandait souvent des détails sur sa vie. Elle a eu un certain succès dans sa...
Stephen
King l'aime beaucoup. Joyce Carol Oates lui rend également hommage. Et Shirley Jackson, je trouve que ça introduit bien le personnage, puisqu'elle dit « Non, mais les gens m'écrivent pour me demander des détails biographiques, je ne souhaite pas en donner, enfin ma vie, c'est pas très intéressant. Bon, je m'en tiendrai aux faits, je suis née, voilà, en 1919, et puis voilà. » Et je trouve ça assez amusant et charmant, puisque le fait qu'elle donne est faux en vérité, puisqu'elle ment sur sa date de naissance. Elle est née en 1916.
Très bien, on est impatients de la découvrir avec vous. Merci à tous les trois d'avoir répondu à cette invitation à faire partager vos goûts et votre amour de la littérature à nos auditeurs. Je voudrais qu'on commence en évoquant Borges, qui avait écrit cette phrase « Que d'autres se targuent des pages qu'ils ont écrites, moi je suis fier de celles que j'ai lues ». On en parlait avec Charles Julliez la semaine dernière. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de lire avant d'écrire et comment s'est articulé chez chacun de vous à l'origine la lecture et l'écriture ? Antoine Compagnon.
Je crois que oui, tout écrivain est d'abord un lecteur, un grand lecteur. C'est en lisant qu'on apprend à écrire, hein, en lisant, en écrivant, comme disait Julien Gracq. Ça me paraît deux activités absolument fondues l'une dans l'autre. J'ai eu l'autre jour au Collège de France une conversation avec Mario Vargas Llosa, et j'avais choisi de prendre comme axe de cet entretien ses lectures, puisque voilà le modèle d'un lecteur vorace, d'un lecteur cannibale. Et nous avons évoqué Borges, justement, puisque Borges est pour lui le grand écrivain latino-américain du XXe siècle. Et ils ont évidemment en commun d'être d'abord des lecteurs.
Et ces troubadours qui sont chers à votre cœur, Michel Zinc, étaient aussi des lecteurs d'autres textes. Il y avait une formation finalement d'écrivain chez ces troubadours.
Il y avait, semble-t-il, une formation d'écrivain. On dit de l'un d'entre eux que l'hiver, il enseignait les lettres et que l'été, il allait chanter ses chansons dans les cours. Mais on ne sait pas si enseigner les lettres, ça veut dire apprendre l'alphabet aux enfants ou enseigner autre chose.
Ça revient
mais
toujours à ça,
ils
non
savaient, alors, ça dépendait justement de leur milieu social et de leur formation. Certains étaient, les clercs avaient une formation de latiniste, connaissaient très bien la poésie latine, etc. D'autres moins. Mais ils s'écoutaient les uns les autres. Et nous avons, sur l'espace d'un siècle et demi, à peu près, des milliers de poèmes écrits par des centaines de poètes, et on a l'impression que pas un, il n'en est pas un seul qui ne réponde à un autre, qui ne reprenne le même thème pour le démentir, pour le poursuivre, pour l'affiner, qui ne reprenne un schéma métrique, une mélodie, mais jamais exactement le même, parce qu'on n'a pas le droit. Et de cette façon, ils sont à une époque où la diffusion est orale, si la conservation est écrite, eh bien, c'est tout de même un monde de la lecture au sens très large, de la réception, de la diffusion, de l'échange qui produit la créativité poétique.
Yakuta Alikavazovic, vous êtes romancière, vous êtes aussi traductrice, donc vous continuez à lire et attentivement pour traduire, pour restituer dans un autre langage quelque chose que vous lisez dans un langage originel. Vous pensez aussi qu'on est d'abord lecteur, qu'être écrivain impose finalement une pratique, une familiarité avec les textes que d'autres ont écrits avant nous.
Mais naturellement, on est d'abord lecteur et lectrice. On est même avant tout, je pense, lecteur et lectrice. Qu'on soit traducteur ou pas, d'ailleurs, qu'on pratique la traduction ou pas, la traduction est juste une façon extrêmement exigeante de lire et de relire, puisqu'il y a la relecture aussi qui importe énormément. Moi, j'en parlais il y a quelques années de ça avec un romancier américain contemporain qui s'appelle Percival Everett, qui enseigne l'écriture créative. Alors ça commence à se faire en France. À l'époque, c'était pas encore tout à fait le cas, où ça commençait tout juste.
Alors est-ce que c'est enseigner les lettres, comme disait Michel
voilà,
Zinc,
alors moi, creative writing? Je lui demandais, mais Percival, est-ce qu'on peut vraiment apprendre à écrire à quelqu'un? Et alors il me regarde, il sourit, c'est quelqu'un de très gentil, de très généreux. Et puis il me dit, on peut leur apprendre à lire. Et je pense qu'il y a vraiment ce lien-là, oui, très fort et indéniable, avec des dialogues dans l'époque, mais aussi entre les époques, naturellement. C'est ça qui est merveilleux.
Antoine Compagnon, vous enseignez aux États-Unis aussi. C'est vrai que les écrivains, là-bas, sont professeurs, non pas de lettres, mais de creative writing, de technique narrative, presque.
Ben oui, il y a un des collègues de Columbia au département de creative writing, c'est Richard Ford, que je connais, qui enseigne chaque année donc un séminaire à l'automne. Ben oui, ce sont de grands lecteurs qui apprennent d'abord à lire les autres avant de découvrir des formes. Mais je crois qu'il faut aller plus loin que ce que vous dites. L'homme moderne est un lecteur. Et je pense ici à Montaigne. C'est Montaigne qui s'est formé à travers la lecture. Alors justement, c'est plus comme cette tradition orale, cette culture orale qui se transmet notamment par la chanson, par le poème. Montaigne est entouré de ses livres dans sa tour. Et au fond, c'est le modèle de la formation humaniste à peu près jusqu'à nos générations, où l'on se découvre dans les livres.
Alors moi aussi, j'étais entouré par vos livres dans ma tour pour préparer cette émission. On va commencer d'ailleurs à plonger dans vos livres. On va commencer avec vous, Michel Zinc, mais d'abord, on écoute la musique que vous nous avez apportée, une chanson du troubadour Marc Abru.
Marcabru.
Voilà,
Marcabru. Marchebrun, c'est presque.
Marchebrun, première moitié du XIIe siècle. Alors ça, je vous laisse le dire quand même. L'averse commence.
L'averse commence, conveyed el fao.
Voilà. C'est l'ensemble Céladon qui l'interprète, dirigé par Paulin Bungen.
L'averse commence, conveyed el fao, c'est sfuria laut sime branchi.
Michel Zinc, je vous laisse nommer cette chanson.
L'Over commence conveyed el fao, c'est je commence mon poème quand je vois du être se dépouiller, le vers suivant, la cime et le rameau. Là, il y a toujours une entrée en matière printanière ou hivernale, là c'est hivernal. Et ce qui est frappant, c'est que la mélodie est extrêmement douce, alors que c'est une chanson extrêmement violente et polémique, mettant en cause à la fois l'amour et la façon dont il est mal vécu, mal pratiqué, mal conçu par certains, la poésie, s'en prenant à ses collègues, les troubadours qui ne font pas ce qu'il faut, etc. Marcabru est un personnage très sombre, très tourmenté, avec une poésie très violente, très difficile, souvent obscure, souvent très obscène, enfin, quelquefois obscène, mais pour dénoncer l'immoralité. Donc il mélange, il est marqué par la spiritualité cistercienne, en même temps c'est l'époque de Saint Bernard. C'est quelqu'un d'extrêmement compliqué, réputé être fils, enfant trouvé. Alors, il dit « je suis Marcabru, fils de Marcabrune, qui jamais n'aimait une femme et jamais ne fut aimé d'aucune », ce qui est démenti par d'autres choses.
Très bien, lui aussi mentait, comme Shirley Jackson. Alors vous avez publié, Michel Zinc, je le disais, « L'humiliation, le Moyen-Âge et nous » chez Albin Michel. Je voulais savoir comment vous était venue cette idée d'attaquer le Moyen-Âge sous l'angle de l'humiliation. En effet, même si le christianisme y est crucial, et avec lui l'idée d'humilité, qui n'est pas forcément l'humiliation, la société chevaleresque, j'avais l'impression, se fondait quand même, au contraire, sur l'exacerbation de l'honneur et de la puissance.
Et c'est pour ça que j'ai traité ce sujet. D'abord parce que l'humiliation est un sujet, enfin, quelque chose que je ressens pas personnellement, mais un sujet qui me préoccupe. Et j'ai l'air idiot de dire ça maintenant parce qu'on ne parle plus que de ça. Mais le livre est plus ou moins tiré d'un cours que j'avais fait il y a 4 ou 5 ans au moins. Et on en parlait moins. Enfin, ça s'est développé de façon extrême. Mais effectivement, ce qui m'a frappé, c'est que le Moyen-Âge est une société, la société chevaleresque, féodale, une société de l'honneur qui ne craint rien plus que l'humiliation, la lâcheté qui est déshonorante, etc. L'exclusion sociale, les manifestations d'humiliation, et en même temps une société modelée par une religion de l'humilité, mais en outre qui est fondée sur une scène d'humiliation. Tout repose sur la passion du Christ. Alors comment se sortent-ils de cette contradiction? Ben ils s'en sortent comme ils peuvent, comme on sort de toutes les contradictions, en la niant, en la récupérant, en l'admettant de temps en temps, etc. Et ils nous ont légué quelque chose qui vient d'eux, que nous redoutons l'humiliation tout autant, mais nous prenons toujours instinctivement le parti de l'humilier. Nous nous identifions toujours d'abord à l'humilier, et cela, ça date du Moyen-Âge. Dans l'Antiquité, pas du tout. Dans l'Antiquité, humilis humble, ce terme si important dans le monde chrétien en latin, a toujours un sens négatif. Tapainos, qui est l'équivalent grec, a toujours un sens négatif. C'est un élément nouveau de cette civilisation et nous en voyons aujourd'hui les conséquences très lointaines, très déformées, mais tout de même.
Même vos troubadours, hein, Michel Zinck, partagent peut-être ce goût pour l'humiliation. Je tombais sur quelques vers d'un certain Gosselm Feidit.
Feidit, c'est l'exilé.
Voilà.
Fils d'un bourgeois du Zerche, en Limousin.
Si méchante, rude et tyrannique qu'elle soit, je resterai avec elle, si elle le voulait, volontiers, plus qu'avec une autre qui me ferait davantage de bien. Est-ce que, finalement, l'amour au Moyen-Âge inclut aussi ce sentiment d'humiliation sur lequel vous avez travaillé?
Oui, bien sûr. Mmh. Oui, parce que comme l'amour doit tout recevoir de la dame, ne rien exiger d'elle, la dame peut faire ce qu'elle veut. Les relations sont calquées sur les relations féodales. La dame est comme le suzerain. Et donc, on joue de cette sorte de masochisme. On joue beaucoup aussi de la jalousie sexuelle. Ah, quelle envie me vient de quiconque je vois jouissant. C'est merveille qu'à l'instant mon cœur ne fonde de désir. Du voyeurisme, de choses comme cela. Et alors, le pauvre Gosselm Feidit, dont sa vie en prose se moque, il est devenu obèse à force de trop manger et trop boire, il a épousé une prostituée qui est elle-même devenue obèse, enfin, etc. Il a eu des tonnes malheurs avec les femmes, et elle se moquait de lui. Et la pire, c'est celle, il croyait qu'elle l'aimait parce qu'une fois, elle l'avait autorisé à déposer un baiser sur sa nuque. Et pendant qu'il était en voyage, elle est allée chez lui, Gosselm Feidit, et elle s'est fait prêter son lit par la femme de Gosselm Feidit, trop contente de son lit, elle y a rencontré son amant.
Décidément, ça aussi, je disais, c'est contemporain, vous moquiez de moi tout à l'heure, mais ça aussi.
Sous prétexte de faire un pèlerinage à Rocamadour, qu'elle a fait ensuite, au retour, elle a retrouvé l'amant de nouveau, et dit, la vida, quand Gosselm Feidit est revenu, il en a été très triste, et surtout que ça s'était passé chez lui, et il n'a jamais plus composé de chansons. Ce qui n'est pas vrai, là encore, ce n'est pas la dernière de ses chansons. Mais dans sa représentation, on supporte ou on recherche l'humiliation en amour, mais il y a un moment où c'est trop.
Alors c'est vrai que j'avais une envie de Chrétien de Troyes, envie que vous nous parliez de Chrétien de Troyes.
Comme vous avez raison.
Mais alors lequel? Parce que c'est vrai que quand on parle du Moyen-Âge, Chrétien de Troyes, mais l'œuvre est tellement vaste. Alors est-ce qu'on va du côté de Perceval ou le Comte du Graal, Yvain ou le Chevalier au Lion, que les enfants d'ailleurs relisent en ce moment, ou Erec et Enide, lequel vous nous conseillez?
Bon, le Comte du Graal, bien qu'il soit inachevé, est le plus achevé, et c'est une œuvre, c'est prodigieux, c'est...
Inachevé, mais achevé. Oui. Alors ça, c'est votre goût du paradoxe qui s'exprime.
Oui, mais l'histoire du Graal, d'ailleurs, est très difficile à achever. Beaucoup des romans du Graal restent inachevés parce que comment finir? Bon, Perceval ou Galahad gagne, il est au château du Graal, il est le roi du Graal. Et puis après, c'est très décevant. Donc, il préfère ne pas finir. Mais enfin, lui, c'est peut-être pour une autre raison. Le Chevalier au Lion, ça commence, cette aventure de La Fontaine, au début, il n'y a rien de plus magnifique. Et Erec et Enide, qui est le premier, est un roman pour lequel j'ai une certaine tendresse, parce que moi aussi, à ma façon, je suis un moraliste. Parce que Erec et Enide a l'originalité dans la littérature française d'être un roman de l'amour conjugal. Et Chrétien de Troyes, comme tous ses contemporains, est fasciné par la légende de Tristan et Iseut, et en même temps, comme eux, éprouve une sorte de répulsion. Tristan qui prend la femme de son oncle, qui est en même temps son suzerain, et puis cette histoire de philtre. Chrétien a dit dans une de ses chansons, et d'autres le disent aussi, des troubadours, moi j'aime mieux que Tristan, parce que lui, il avait bu le filtre, il pouvait pas faire autrement. Tandis que moi, je vous ai choisi.
Oui, sans filtre.
Et,
ah oui.
Et alors, dans ces recueils d'Enide, comme d'ailleurs dans Le Chevalier au Lion aussi, c'est la question de la difficulté de l'amour conjugal. Tous les romans de Chrétien de Troyes sont comme en deux parties. Le héros atteint très vite au but, rencontre le succès. Mais il le rencontre comme par hasard, sans savoir ce qu'il obtient. Il ne le comprend pas, il n'en a pas payé le prix, il ne sait pas qu'il y a un prix à payer. Et il perd tout. Et à ce moment-là, il doit tout reconquérir, mais cette fois-là, lentement, difficilement, dans la souffrance de la conscience. C'est vrai de Perceval, naturellement. Il ne pose pas la question au château du Graal. Mais dans Erec et Enide, et aussi dans Le Chevalier au Lion, c'est vrai, Erec est vainqueur du tournoi de l'Épervier, il loge chez un monsieur qui a une fille charmante, elle est ravissante, il l'aime, elle l'aime, les parents sont d'accord, il l'épouse, il est fils de roi, il est très bien accueilli par Arthur et Guenièvre, tout va bien. Mais il n'a pas réfléchi à ce qu'était cet engagement. Comment concilier ça avec sa vie professionnelle, si je puis dire, il est fils de roi, il est chevalier, comment va-t-il faire, etc. Et il y a une crise. Et le roman raconte les conséquences dramatiques de la crise et comment elle est résolue. Et dans Chevalier au Lion aussi.
Michel Zinc, on vous écoute lire peut-être un petit passage d'Erec et Enide.
Alors, c'est la nuit de noces d'Erec et Enide.
Ah.
Parce que il y a un passage très émouvant où le poète, discrètement, évoque cette nuit de noces pour dire que ça s'est bien passé parce que Erec était attentif et doux. Et que, du coup, ensuite, il peut y avoir une crise, mais ils se retrouveront là. Et il commence en disant « À cette première assemblée, la ne fut pas iseux en blé, ne brangien en lieu de lui mise. » La première fois qu'ils seront retrouvés pour cette première nuit, iseux n'a pas été mise à l'écart et en brangien ne lui a pas été substitué. Ce qui se passe dans le roman de Tristan et Iseux, où comme iseux n'est plus vierge, pour la première nuit avec le roi Marc, elle envoie sa suivante à sa place. Je saute un petit peu. Le cerf, je lis en traduction, le cerf traqué, tout pantelant de soif, ne désire pas tant la fontaine, donc une utilisation très audacieuse du psaume 42, n'est-ce pas, s'écoute Kervous désirat en fontes aquarum, l'épervier affamé n'accourt pas si volontiers aux réclames, que tous deux n'étaient impatients d'arriver au moment où ils seraient dans les bras l'un de l'autre. Cette nuit-là, ils ont bien rattrapé le temps qu'ils avaient perdu. Quand la foule a quitté leur chambre, ils rendent la liberté à leur corps tout entier. Leurs yeux se recréent à contempler, eux qui ouvrent la voie à l'amour et envoient leur message au cœur, tant ils prennent plaisir à tout ce qu'ils voient. Après le message des yeux, vint une jouissance bien plus grande, la douceur des baisers qui sont les appâts de l'amour. Tous deux font l'épreuve de cette douceur et en approuvent leur cœur au-dedans, au point qu'ils ont grand-peine à séparer leurs lèvres. Le baiser fut le premier jeu, mais l'amour qui les unissait l'un à l'autre rendit la pucelle plus hardie. Rien ne l'a effarouchée. Elle souffrit tout, quoi qu'il lui en coûtât. Avant qu'elle sortît du lit, elle avait perdu le nom de pucelle. Au matin, elle était dame nouvelle.
Oh, merci Michel Zinc. Donc, Erec et Enide qu'on peut trouver en traduction.
Alors ça, c'est dans la collection Lettres gothiques, au livre de poche, mais on le trouve en bilingue. Le texte en ancien français sur une colonne et le texte en traduction sur l'autre. Les cinq romans sont publiés et de cette façon, et ont été réunis ensemble dans un volume de la Pochothèque. Ah, voilà.
Classique moderne, Chrétien III, roman. Merci Michel Zinc, vous êtes resté avec nous, évidemment. On va maintenant traverser les siècles pour arriver au 19e, au temps des chiffonniers. Avec vous, Antoine Compagnon, vous publiez Les Chiffonniers de Paris chez Gallimard. On va parler de Victor Hugo aussi avec vous. Mais d'abord, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi Charpentier, un extrait de Louise, Depuis les jours, c'est l'acte 3, l'air de Louise, interprété par Maria Callas. Et c'est l'Orchestre National de Radiodiffusion Française qui le joue, dirigé par Georges Prêtre. On écoute.
Vous écoutez France Culture, Le Temps des Écrivains, par Christophe Onodibio. Thank you.
Extrait de Louise de Gustave Charpentier avec la voix de la Calas. C'est votre choix, Antoine Compagnon. Vous publiez Les Chiffonniers de Paris chez Gallimard. Pourquoi ce choix musical?
Eh bien, parce que dans Louise, il y a un chiffonnier et il y a tout le petit peuple de Paris. Enfin, le personnage principal de cet opéra, c'est Paris. Et on a une balayeuse. En fait, Louise est une couturière. Et c'est un mélodrame dans la tradition. C'est l'un des derniers en 1900, du 19e siècle, où la couturière tombe amoureuse du bohème. Et son père n'en est pas parfaitement heureux. Bon, il n'y a pas beaucoup d'enregistrements de Louise au complet, mais il y a un air que toutes les sopranos ont chanté et qu'on trouve dans tout le répertoire. Mais j'ai pensé que c'était bien d'entendre Calas plutôt
Ah oui, merci. Merci Antoine Compagnon. Les Chiffonniers de Paris, c'est un passionnant voyage qui nous fait renouer avec ce personnage qui pourrait passer pour marginal, mais qui est tout à fait central dans la littérature. Le chiffonnier, ce ramasseur de vieux chiffons qui hante à la fois les nuits de Paris, les nuits de la Révolution industrielle et les pages de Victor Hugo, de Baudelaire, les toiles et les dessins des artistes aussi, Daumier, Gavarni. Vous l'explorez sous toutes les coutures, cet homme du chiffon, son recrutement, les mythes qui les entourent, la gestion des déchets de Paris, la prostitution aussi. Vous avez cette phrase étonnante. Il n'y a aucun mérite à revenir aujourd'hui sur le chiffonnage au temps de Baudelaire. C'est tout simplement respirer l'air du temps, écrivez-vous Antoine Compagnon. Pourquoi l'air du temps? Pourquoi le chiffonnier nous parle de l'air du temps?
Eh bien parce que au XIXe siècle, à Paris, la notion de déchet n'existait pas. Tout ce qui était produit était recyclé à 100%. Et maintenant, on nous parle beaucoup de ce qui s'appelle l'économie circulaire. Nous sommes revenus à une époque où, au fond, nous sommes beaucoup plus soucieux de ne pas gaspiller. Et il me semble que le gaspillage a été une parenthèse dans la longue histoire de l'humanité, dans la longue histoire d'une ville comme Paris. De ce fait, eh bien, il y a beaucoup d'ouvrages aujourd'hui, beaucoup de recherches sur les ordures, voilà, et sur les chiffons. Donc,
les chiffons.
Je pense pas que je me serais intéressé à un tel sujet il y a 20 ou il y a 30 ans.
Alors, ce chiffonnier, chevalier, ça va plaire à Michel Zinc, chevalier de la lanterne, hein, comme on les appelait. Ce chiffonnier, on l'a dit philosophe, comme le dénommé Liard, célèbre car il récitait Horace et Virgile, ou détrousseur de cadavres après les nuits de barricade, selon Jules Vallès. Ce chevalier, il a deux accessoires, le crochet et la hotte. Et cette hotte, qui n'est pas celle du Père Noël, mais qui pourrait, tant elle contient de choses, vous nous en dites beaucoup, Antoine Compagnon, notamment quand vous relisez Baudelaire et quand vous relisez Hugo, qui évoque un Paris comparé à un chiffonnier. Paris élève au loin sa voix, noir chiffonnier qui, dans sa hotte, porte le sombre tas des rois. Hugo qui va même comparer le chiffonnier à la guillotine, chiffonnier à la haute fleur-de-lysée. C'est politique le chiffonnier aussi.
Oui, le chiffonnier est un personnage important. À mes yeux, il devient la personnification de la roue de la fortune. C'est l'une de ces images, une des métaphores les plus présentes, et notamment chez Hugo. Et les victimes de la roue de la fortune les plus célèbres, révolution après révolution, ce sont les souverains. On trouve donc d'assez nombreuses représentations des rois ou de Napoléon Ier avec son épée à la place du crochet du chiffonnier, cherchant sa couronne dans le tas d'ordures au coin de la borne. Et on représente souvent la hotte du chiffonnier avec deux objets qui dépassent, un os, puisque le chiffonnier récolte aussi les os pour faire des allumettes notamment, et une couronne. La couronne, c'est au fond ce que rêve de trouver le chiffonnier dans le tas d'ordures, parce qu'il y a toujours ce mythe du trésor dans l'ordure. Et on connaît le vers de Baudelaire, hein, préface des Fleurs du Mal, adressé à Paris, « Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or ». Donc toute la réflexion est fondée sur cette dialectique de la boue et de l'or, ou de l'ordure et la couronne.
C'est à la fois la métaphore du peuple en colère, en rébellion, mais aussi la métaphore de la poésie, le chiffonnier, justement, vous le disiez, la boue qui devient de l'or, le travail du poète étant un travail de chiffonnier de l'esprit, de chiffonnier de la rime, de chiffonnier mystique.
C'est cela. Tout au long du XIXe siècle, le chiffonnier est une personnification, là aussi, du poète. Hein. C'est l'alter ego du poète. Le poète a besoin de papier. Vous citiez tout à l'heure Mercier, qui est un des premiers à développer cet argument. Et puis, c'est renforcé au milieu du siècle par le réalisme. On traite le romancier réaliste de chiffonnier, et à ce moment-là, c'est une injure.
Et pourquoi représente... Parce que la réalité, il faut, le poète ne doit pas normalement.
Il ramasse la réalité dans la rue, et dans le livre, j'ai montré un certain nombre de. Bon, il y a beaucoup de gravures. Eugène
énormément, je le dis, il est très très bien. Il y a 146 illustrations absolument magnifiques, d'ailleurs, qui montrent Zola
représenté en chiffonnier. Représenté en chiffonnier, cela devient une représentation tout à fait traditionnelle du romancier naturaliste ou du romancier réaliste. Mais depuis le début du siècle, le poète est traditionnellement représenté en chiffonnier. On l'évoquait tout à l'heure. Il est un flâneur, il fréquente les mêmes cabarets. Il y a une complicité entre les deux. Il y a aussi une complicité entre lui et le dessinateur. C'est pourquoi il y a tant de gravures, tant de caricatures de Daumier, de Gavarni, de Traviès. Parce que c'est la grande époque de la lithographie. Représentation peu coûteuse. Et là aussi, il y a besoin de papier pour faire des lithographies. Donc, il est très proche de tous ces milieux qui sont aussi ceux de la bohème.
Alors, il y a Baudelaire, hein, vous nous en avez parlé, mais vous vouliez particulièrement, Antoine Compagnon, évoquer Hugo, que vous appelez ce grand chiffonnier de la littérature. Mais quel Hugo faut-il relire là, pour les vacances ou la trêve qui s'annonce? Quel Hugo? C'est tellement vaste, Hugo.
C'est tellement vaste et le chiffonnier est partout. Alors je vais vous dire où il est le plus présent à mes yeux. Il est présent dans les châtiments, puisque dans les châtiments, beaucoup de ces âmes des damnés qui ont conspiré lors du coup d'État se retrouvent au coin des bornes et Hugo nous dit qu'elles ne sont même pas dignes d'être ramassées par le chiffonnier. Puis il y a le Rhin où il y a cette image magnifique. Hugo est à la cathédrale de Fribourg en Suisse, il voit Satan avec une hotte sur le dos et un bâton à la main. Pour lui, ce bâton, c'est un croc, et c'est Satan qui trie les âmes des justes et des maudits. Donc, le grand chiffonnier, c'est aussi Satan. Mais je crois que c'est vers Les Misérables qu'il faut se tourner, parce que dans Les Misérables, il y a ce magnifique chapitre sur le Léviathan. C'est là que Hugo développe cette conception du vitalisme, et c'est un peu le point de départ de ma réflexion sur le chiffonnier. C'est le cycle de la vie, le cycle de la vie et de la mort, et les ordures appartiennent à ce cycle. Bon, je vous cite quelques mots de « Ces tas d'ordures au coin des bornes, ces tombereaux de boue cahotés la nuit dans les rues, ces affreux tonneaux de la voirie, ces fétides écoulements de fange souterraine que le pavé vous cache, savez-vous ce que c'est ?» C'est de la prairie en fleurs, c'est de l'herbe verte, c'est du serpolé et du thym et de la sauge, c'est du foin parfumé, c'est du blé doré, c'est du pain sur votre table, c'est du sang chaud dans vos veines, c'est de la santé, c'est de la joie, c'est de la vie. Et au fond, c'est toute la philosophie qui est au fond de cette réflexion sur le chiffonnier. C'est Hugo qui m'a fait comprendre l'importance du chiffonnier au XIXe siècle. Vous voyez, il faut faire tout ce détour à travers le chiffonnage pour lire mieux Baudelaire ou Gautier ou Hugo. C'est un livre d'histoire, mais c'est un livre qui nous ramène à la littérature.
Ah, totalement, elle est au cœur. Nous sommes tous devenus des chiffonniers, dites-vous d'ailleurs, c'est le dernier mot de votre texte. Qu'on le veuille ou non, cela renouvelle notre vision du monde ainsi que notre façon de relire la poésie. Le dernier mot de ce livre sur les chiffonniers de Paris, qui nous parle énormément de littérature, c'est le mot poésie.
Ben oui, parce que quand j'ai fait ce cours au Collège de France il y a quelques années, mes auditeurs au début étaient assez déconcertés. Ils ne comprenaient pas pourquoi je parlais tant de matières assez dégoûtantes et ignobles pour expliquer la poésie. Et il leur a fallu, je dirais, pas mal de détours et de semaines pour voir que l'on allait mieux comprendre la littérature du XIXe siècle en s'intéressant à ce que j'appelle la culture matérielle ou la philologie des choses.
Ouais. Merci Antoine Compagnon. Les chiffonniers de Paris, ça vous, Vous aimez ce personnage de chiffonnier, Yakuta Likavazovic?
Je le découvre.
Vous êtes une chiffonnière,
Je ne crois pas être une chiffonnière.
Comme écrivain, hein, c'est-à-dire, est-ce que vous ramassez le réel? Antoine Compagnon vient de nous montrer que Zola était vu comme un chiffonnier.
Non, je découvre l'importance du chiffonnier, je vous en remercie, et au-delà même du 19e, parce qu'il se trouve qu'il y a quelques jours, j'étais par amitié à la soutenance d'une très belle thèse de doctorat sur Pynchon, Thomas Pynchon, romancier post-moderne, où il a été, en vérité, beaucoup question de votre livre, de votre travail sur les chiffonniers, donc vous voyez que ça continue.
Parce que Pynchon était vu, justement, aussi comme étant dans cette dynamique de ramasser des morceaux.
Parce que je vous avais dit quelque chose qui me paraît extrêmement juste et éclairant. La question du déchet est une question absolument contemporaine et essentielle au monde dans lequel nous vivons et à la littérature qui s'écrit à ce moment-là. Et Pynchon, mais comme d'autres, comme Delillo, lui aussi, se sont intéressés à la question du déchet, de l'ordure, de ce qui est exclu des circulations habituelles dans la société américaine du XXe siècle, qui est la société par excellence de la consommation, évidemment, et donc de la production du déchet.
On va poursuivre avec vous, Yakuta Likavazovic. Vous avez publié en cette rentrée littéraire L'avancée de la nuit, aux éditions de l'Olivier. On en parle ainsi que de votre choix littéraire, votre conseil pour Noël. C'est tellement festif aujourd'hui. L'écrivain américain Shirley Jackson, très importante pour Joyce Carol Oates, pour Stephen King aussi, on en parle. On écoute d'abord votre choix musical. Vous avez choisi une chanson de Tuxedo Moon, In a Manner of Speaking.
Just want to say that I could never forget the way you told me everything by saying nothing. In a manner of speaking, I don't understand how loving silence becomes reprimand, but the way that I feel about you is beyond words. Oh, give me the words. Give me the words that tell me nothing.
Manner of Speaking de Tuxedo Moon, c'est le choix de Yakuta Likavazovic qui publie L'avancée de la nuit à l'Olivier. Elle est avec nous dans ce temps des écrivains avec Michel Zinc et Antoine Compagnon. Pourquoi ce choix musical ?
Parce que, alors, on renoue, si on l'a jamais dénoué ce lien avec la complainte amoureuse, avec le silence redoutable de l'être aimé, hein, à un moment il chante, je n'arrive pas à comprendre comment l'amour en silence devient réprimande, voilà. Et puis, cette question qui est une question, somme toute, éminemment poétique, qui est que peuvent les mots? Les mots doivent tout pouvoir, devraient tout pouvoir et ne peuvent rien en même temps. On est vraiment autour de l'indicible et c'est par ailleurs une très très belle chanson.
Alors, je le disais, vous êtes romancière, vous êtes agrégée d'anglais, traductrice notamment de Ben Lerner ou de David Foster Wallace, que vous êtes en train de traduire. Votre premier roman, Corps volatile, avait remporté le prix Goncourt du premier roman en 2007. Et ce livre, L'avancée de la nuit, c'est votre quatrième, publié aux éditions de l'Olivier. Vous avez aussi publié ou commencé une thèse sur les cabinets de curiosité et les chambres de la mémoire. J'ai vu ça quelque part.
Ouh là là, oui, c'était peut-être mon moment chiffonnier, oui.
Oui.
Non, cette thèse n'a pas été finie.
N'a pas été terminée.
Non.
Qu'est-ce que c'est les chambres de la mémoire?
Ah, mais c'est... Oh non, vous allez remuer le couteau dans la plaie de l'inachèvement universitaire. Non, non, non. Mais enfin, les chambres de la mémoire sont héritées des arts de la mémoire, donc c'est des arts mémoriels qui consistaient à associer un texte à un espace imaginaire de façon à pouvoir se l'incorporer. C'est cette incorporation de la mémoire qui m'est très cher. Alors, je n'ai pas fini ce travail-là. En revanche, il irrigue ce que j'écris. Ben
voilà. Donc, tout n'est pas perdu. C'est circulaire, comme
mais
dirait Antoine Compagnon.
Rien n'est jamais perdu.
Oui, les chambres de la mémoire, c'est ce qu'on appelle au XVIIIe siècle les chiffonniers sentimentaux. Ah ben, voilà. N'oublions pas que le chiffonnier est un meuble.
Aussi. Exactement.
Et c'est le meuble où on rangeait ces objets de mémoire.
Vous voyez, finalement, nous sommes tous des chiffonniers.
Soyons chiffonniers.
L'avancée de la nuit a pour héroïne la rousse Amélia, une étudiante qui vit à l'hôtel et qui fascine tous ceux qui l'approchent. Et pour héros, le tout jeune Paul, gardien de l'hôtel, qui va nouer avec elle une passion fiévreuse absolue. C'est le récit d'un amour fou. C'est aussi celui, vous nous avez expliqué tout à l'heure, que vous regrettiez d'ailleurs les temps tragiques. C'est une tragédie annoncée puisque Amélia, qui a grandi dans l'ombre d'une mère poétesse, morte à Sarajevo, en tentant de rendre compte de la guerre, va devoir retourner dans les Balkans. C'est un livre crépusculaire, brillant, très personnel, absolument fictionnel. Dans les remerciements, vous dites que la poésie documentaire de la mère d'Amélia doit beaucoup à l'œuvre de votre propre mère. Et je voudrais citer la phrase exacte Yakuta Alikavazovic. La poésie documentaire doit beaucoup à ma propre mère et à son œuvre, continuée par d'autres moyens. Alors là, voilà, c'est le circulaire encore. Qu'est-ce que c'est que continuer par d'autres moyens? C'est alors, votre roman?
La poésie documentaire, c'est quelque chose qui existe aux États-Unis, hein, que je prête à cette poétesse imaginaire, Nadia Dare, à laquelle je prête également effectivement certains traits de ma mère à moi, qui était toute jeune poétesse dans ce qui était encore alors la Yougoslavie. Alors, vous savez, dans les Balkans comme dans les pays de l'Est, la poésie comptait dans les années 70 énormément, comme les échecs d'ailleurs. Et donc, voilà, ma mère a écrit de la poésie, elle a cessé d'écrire ou du moins de publier pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Mais alors la question du silence en poésie, elle est très intéressante, je trouve. Et sans doute, cette histoire personnelle m'a sensibilisée à ça, puisque je pense que le silence d'un poète, d'une poétesse, peut également être poésie et peut également s'infiltrer, si vous voulez, de façon indirecte, de façon oblique. Et cette oblicité, c'est quelque chose qui me tient très à cœur aussi, et à quoi j'essaye de rendre hommage avec mes moyens à moi, qui sont ceux d'une romancière, donc d'une prosatrice. Mais enfin, alors oui, peut-être là encore, il y a cette question de circulation d'une discipline à une autre, d'un art à un autre, je l'espère en tout cas.
Alors, on a parlé de Finamore tout à l'heure avec Michel Zin, qui est toujours avec nous. Ce livre devrait beaucoup un poème de John Donne, Valediction.
Valediction, Forbidding Morning. Oui, absolument. C'est un poète qui compte beaucoup pour moi, John Donne. Et c'est un très beau poème où les amants sont comparés à un compas, aux branches de deux compas. Une lune reste fixe, l'autre tourne. Mais ils sont unis et ainsi, en dépit de la fixité de l'un et du mouvement de l'autre, ils restent unis par la force du lien qui est le leur. C'est aussi une manière de réponse à la question que vous posiez tout à l'heure sur qu'est-ce que l'engagement et comment existe-t-il et comment être à la hauteur de la passion amoureuse.
Oui, mais Michel Zin, pour le peu que je connaisse John Donne, effectivement, les échos avec cette poésie antérieure sont extrêmement forts. Et pour ce qui est du silence du poète, il me semble que c'est une question qui se pose à toute poésie qui est d'une certaine façon personnelle, c'est-à-dire depuis le Moyen-Âge, parce que cette poésie prétend dire ce qui ne doit pas être dit. Mmh. La poésie dit l'intime, dit le secret, et donc elle est elle-même, comme l'amour, perpétuellement contradictoire. Elle cherche un public et le refuse.
Alors vous parlez d'amour, Michel Zin, il est au cœur de votre livre Yakuta Alikavazovic. Je vous cite, « Il s'aimait, cela c'est Paul qui l'aurait dit, lui n'avait pas la culture de la fiction. » Chez lui, on ne lisait pas et il avait été protégé du roman et de ce que le roman fait au jeune cœur en quête de miroir. Il n'était pas exempt d'imagination, d'une intuition de l'irréel, mais sa pensée dans ce domaine était impensée, justement, sauvage, puissante. Il voyait les choses autrement qu'en grand récit et c'est pourquoi il fut, à 20 ans, l'égal d'Amélia Dare, ou qu'il se sentit l'égal d'Amélia Dare. C'est étonnant, cette façon que vous avez de décrire la fiction, le roman, les grands récits.
dont il faudrait se protéger si l'on veut voir la vie la plus instinctivement possible. C'est curieux de la part d'une romancière.
Oh, c'est curieux, et puis c'est un clin d'œil, puisque c'est le rapport que nous entretenons à la fiction varie, évidemment, au fil des âges et des moments de la vie. Je crois que ce que ce passage signifie, c'est que Paul, n'ayant pas le poids d'histoire, d'amour mythique, fictive et idéalisée, comme ça, planant au-dessus de lui, le regard, alors cette fois ni de Dieu ni des caméras de surveillance,
mais
des grands amants de l'histoire de la littérature.
Ou Bovary, dont nous parlait
en tant que bien sûr, Bovary, eh bien, n'ayant pas cet idéal impossible à espérer accomplir, il peut se plonger presque naïvement, et d'ailleurs à ses risques et périls, puisque la fiction nous sauve et nous sauvegarde aussi de beaucoup de choses, il peut se plonger naïvement dans ce qui sera sa première histoire d'amour, peut-être sa seule histoire d'amour, et dans laquelle il s'engage comme ça, presque en toute confiance, puisqu'il a confiance en son cœur, et évidemment la vie le détrompera un peu, puisque la fiction nous sert à ça, à nous mettre en garde aussi.
Vous vouliez nous conseiller la lecture de Shirley Jackson, nous avons
toujours vécu au château.
Voilà. Et donc qu'est-ce qui vous plaît chez Shirley Jackson?
Ce qui me plaît, beaucoup de choses me plaisent, mais c'est la subtilité avec laquelle elle joue avec le genre fantastique, le genre de l'horreur, dont elle fait en réalité des portraits, souvent de femmes, des portraits extrêmement ambigus.
Des sorcières.
De sorcières, mais est-ce à prendre au sens propre ou figuré, c'est toute la question. Il y a un autre roman d'elle qui précède celui-ci, qui s'appelle, je crois en français, le titre est La Maison Hantée, qui est un immense classique, justement, du récit de hantise, où toute la question se pose d'une façon, c'est une héritière de James, en fait, d'une certaine façon, parce que la question de l'ambiguïté se pose, qui est hanté, est-ce la femme ou est-ce la maison, et qui hante qui?
Joyce Carol Oates a adoré.
Oui.
Stephen King aussi, hein, c'est ça.
Oui, absolument. Et moi, je l'aime beaucoup, cette Shirley Jackson. J'aime beaucoup aussi ce personnage de Mary-Catherine Blackwood, puisque c'est une vénéneuse. Alors, j'aime bien, c'est une cousine distante de mon Amélia. C'est aussi... Alors, moi, j'y vois. Alors, je ne sais pas, après, on écrit aussi la filiation des personnages au gré de ses sympathies personnelles. Mais j'y vois presque une vénéneuse au sens de Nathaniel Hawthorne et de la fille de Rappaccini. La fille de Rappaccini est la fille d'un grand savant botaniste qui a des plantes vénéneuses, et sa fille est vénéneuse aussi. Elle est très belle et vénéneuse.
Merci beaucoup, Yakuta Alikavazovic, pour ce conseil. Donc Shirley Jackson, c'est chez Rivage. Merci Michel Zinc, merci Antoine Compagnon, voilà, pour cette émission autour de ce qui est vénéneux, de ce qui est chiffonnage, de ce qui est fine à mort. Je rappelle le titre de vos ouvrages, Les Chiffonniers de Paris d'Antoine Compagnon, c'est chez Gallimard dans la très belle collection Bibliothèque illustrée des histoires. Il est question de Baudelaire, d'Hugo, de littérature. Enfin, c'est absolument passionnant. Michel Zinc, à la fois cette réédition Les Troubadours chez Tempus, donc promenade dans cet art, dans ces plus vieilles chansons de l'Europe, et puis L'Humiliation au Moyen-Âge et nous, c'est chez Albin Michel, et Yakuta Alikavazovic, L'Avancée de la Nuit, c'est aux éditions de l'Olivier. Merci pour vos conseils. Donc avec vous, Antoine Compagnon, on Victor Hugo, hein, évidemment, donc Les Misérables.
Les Misérables, pourquoi
voilà.
pas.
Voilà, c'est un très bon choix. Michel Zinc, Chrétien de Troyes, bon, je vous l'avais dit, je vous ai imposé ce choix, vous me pardonnez.
Oui, mais non, non seulement je vous pardonne, mais je vous approuve.
Bon, très bien.
Et Yakuta, donc nous allons lire Shirley Jackson.
Oui,
merci.
J'espère.
Voilà,
merci
à tous les trois. Merci. Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura avec la complicité de Marie Pernis, Anne-Laure Chanel, à la technique Jean-Louis Deloncle. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter à l'infini sur franceculture.fr. 7h avec Antoine Compagnon, Michel Zinc et Yakuta Alikavazovic et Victor Hugo et Baudelaire et Shirley Jackson et Chrétien de Troyes.